le fondement d'une anthropologie chrétienne. Alors, je m'explique pour que nous comprenions bien et pour que nous saisissions un peu le point de vue dans lequel nous nous plaçons. Il est bien évident qu'à travers toute la révélation, il y a une certaine conception de l'homme présente qu'il serait très intéressante d'étudier. Ceci, c'est comme une grande vision au niveau théologique. C'est le croyant qui lit l'écriture et qui réfléchit sur l'écriture et qui essaie de comprendre comment dans l'écriture, toujours Dieu se révélant, révèle en même temps à l'homme ce qu'il est. Et je crois que c'est le grand leitmotiv de toute l'écriture, ça. Chaque fois que Dieu se révèle à nous, il révèle ce qu'est l'homme, et chaque fois qu'il révèle ce qu'est l'homme, il se révèle. Les deux choses sont très très liées. Une anthropologie de la révélation implique donc nécessairement toujours une certaine vision du Créateur et une certaine vision du Rédempteur. Cette vision de fait va être compatible avec certaines philosophies et avec d'autres philosophies incompatibles. C'est peut-être le problème qu'on va prendre. Et j'aimerais, si vous êtes d'accord, parce que ça c'est pour vous que je fais le cours, hein, et comme le sujet peut être pris de diverses manières, on peut faire un sujet purement philosophique, comme on peut faire un sujet, vous voyez, qui implique les deux aspects. Et j'avais envie, cette année-ci, si vous êtes d'accord, plutôt d'insister sur l'aspect anthropologie chrétienne. Une lecture de certains grands textes de l'Écriture, essayer de dégager à travers cela qu'est-ce que c'est qu'une anthropologie chrétienne. Et puis au terme, si on a le temps, on se dirait quelle philosophie est impliquée dedans. Vous voyez, parce que je pourrais très bien continuer le sujet philosophique de l'année dernière, et puis essayer de comprendre comment une philosophie aboutit à une certaine anthropologie, et voir comment cette anthropologie est une attente d'une anthropologie chrétienne. Mais c'est peut-être plus proche de vos préoccupations. C'est pour ça que j'ai dit ça pour vous, c'est ça que ça m'intéresse de savoir vos réactions, parce que si vous aimez mieux que je fasse ça, je ferai ça. Mais je peux prendre le sujet autrement. Et le sujet autrement, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressé. À Fribourg, je faisais un cours très libre le soir, comme ça, en dehors du point de vue formel des étudiants et de la philosophie. Et je faisais ce cours en disant, chaque fois que Dieu se révèle à l'homme, il révèle à l'homme ce qu'il est. Chaque fois qu'il révèle à l'homme ce qu'il est, il se révèle. Et donc de montrer qu'à travers toute l'écriture, vous avez une vision de l'homme. Quelle est cette vision de l'homme? Cette vision de l'homme, on peut dire, c'est une anthropologie religieuse, et une anthropologie chrétienne. Alors, cette anthropologie religieuse et cette anthropologie chrétienne impliquent nécessairement une certaine philosophie. Mais pas explicitement, implicitement. Dieu ne nous révèle pas une philosophie. Il n'y a pas une philosophie révélée, mais une anthropologie révélée. Et si la philosophie est tout entière ordonnée à une anthropologie, vous voyez qu'il y a là un point de contact. Pouvons-nous regarder l'anthropologie à travers tous les livres de l'écriture et puis nous dire à ce moment-là, je vais avoir une idéologie positiviste, une idéologie marxiste, une idéologie hegelienne. Est-ce que ça collerait avec cette vision d'une anthropologie chrétienne? Oui. Il y a donc une espèce d'attitude de chrétien et de philosophe pour comparer les deux. Alors, Êtes-vous bien d'accord avec ça? C'est pas, j'aimerais que vous leviez la main, alors on verra un tout petit peu, parce qu'il peut y en avoir qui aimeraient mieux que ce soit purement philosophique. Et là, je dis d'avance, hein, c'est une lecture que nous faisons de la Bible, une lecture où nous allons essayer de découvrir progressivement, je ne dirais pas toute la Bible, hein, ce serait intéressant si on avait le temps. Je rêve toujours de ça, parce que ça me semble très important. Si on avait le temps de lire toute la Bible et d'essayer ensemble de voir l'anthropologie chrétienne qui est sous-jacente, l'anthropologie religieuse qui est sous-jacente, sous des influences multiples et diverses du reste. Mais il y a quand même quelque chose qui est présent. Alors vous voyez, deux manières de regarder le cours. Hein? Et puis je vais mettre ça au vote, puisque c'est pour vous. Deux manières de regarder le cours. Première manière. Je pars de la Bible, dans une vision chrétienne, donc théologique. C'est une manière de faire la théologie. Ce n'est pas de l'exégèse, ce n'est pas, si vous voulez, une espèce de théologie biblique. Je dirais que c'est plus, c'est d'essayer de découvrir à travers la Bible cette vision de l'homme qui nous est donnée. Puis, au terme, on essaiera de voir et d'expliciter quelle philosophie est impliquée dedans. Bon, première vision. Deuxième manière d'envisager le problème, nous continuons au point de vue philosophique, en partant de l'expérience humaine, d'essayer de voir comment le philosophe aboutit à une certaine anthropologie. Un philosophe réaliste, pas une idéologie, mais un philosophe réaliste, aboutit à une certaine conception de l'homme et de voir que cette conception de l'homme n'est pas en contradiction avec ce que la foi nous dit sur l'homme, ce que la foi nous dit sur la grâce. Oui, donc deux visions. Les points de départ sont différents. Il y a des rencontres entre les deux. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, quels sont ceux qui sont pour cette première conception, cette première recherche? Alors, qu'est-ce qui va compter? Parce que moi, je suis dedans, il faut que je compte bien, disons. Quels sont ceux qui sont pour l'autre recherche? Bon, alors c'est net, hein. Alors, je prends la Bible. Je crois que c'est une recherche qui est légitime et intéressante de faire ça. Vous voyez, de faire une recherche de cette manière-là. Alors, on va regarder en premier lieu, parce que c'est le premier moment, c'est la Genèse. Et peut-être, du reste, que je me contenterai de regarder la Genèse, puis après de passer tout de suite dans l'évangile de saint Jean. Parce que c'est le point de départ et le terme. Hein? Et comme on n'a pas le temps, alors entre deux, on regardera quelques aspects de l'Ecclésiaste, du livre des Proverbes, où il y a toute une vision de l'homme qui est assez curieuse. Et le livre de Job. Le livre de Job, il y a une vision de l'homme. Alors, premièrement, la Genèse. Et nous regardons la Genèse avec beaucoup de force. Dans la Genèse, vous savez bien, il y a deux récits de la création. Deux récits de la création. Le premier, qui, je crois, est le récit le plus intellectuel et le plus évolué. C'est-à-dire qui, au fond, respecte un certain schéma que nous dirions aujourd'hui évolutionniste. Je dis aujourd'hui, parce que c'est pas ça du tout, mais ça fait rien. C'est montrer que Dieu crée tout par sa sagesse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et je crois que ce premier récit de la création est assez net pour nous montrer que Dieu crée tout selon un certain ordre de sagesse. l'ordre de sagesse, dans ce qu'il a de plus fondamental et de plus primitif, c'est le point de vue du temps. Je crois que c'est l'ordre le plus inscrit en nous. Et quand nous commençons à perdre l'ordre du temps, ça ne fait tout. Quand vous confondez aujourd'hui, on est dimanche. Alors on est lundi. C'est grave quand on arrive à perdre complètement l'ordre du temps. Vous savez, c'est grave. L'ordre, je crois le plus inscrit, je crois que l'ordre des lieux est second. Ça, c'est une question philosophique et critique très curieuse et qui serait intéressante du reste à creuser. Mais je crois que c'est la première chose qui s'inscrit génétiquement en nous. C'est la première chose que l'enfant arrive à saisir. L'ordre du temps. L'enfant dit au début, n'est-ce pas, demain, demain, demain. C'est le futur. Le futur, le passé, le présent. Et puis on arrive à préciser les éléments d'une semaine. La semaine. À quel moment la semaine a commencé, je ne sais pas comment est-ce que ça savoir. Hein. Mais l'ordre de justement, qui est comme ça, successif. Ah, il est arrivé. Ah, vous étiez là derrière, il y a un jeune rocker, et donc il n'avait pas de voix. Alors, je répète ce que nous allons faire. Nous allons essayer, à travers l'écriture, de trouver une certaine anthropologie religieuse et chrétienne. D'abord religieuse, puis ensuite chrétienne. Pour essayer de comprendre comment l'écriture contient une certaine vision sur l'homme. Et essayer de comprendre ce qu'est cette vision sur l'homme. Alors, je disais qu'il fallait regarder le premier récit de la Genèse, le premier récit sur la création. Ce premier récit, est un récit selon l'ordre de la sagesse, et il prend comme ordre les 7 jours. Donc c'est un récit c'est un ordre dans le temps. C'est très curieux ça, c'est du reste intéressant à saisir. Et nous voyons, Dieu dit que la terre fasse sortir des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, reptiles, bêtes, sauvages selon leur espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toutes les bêtes sauvages, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle. Il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe portant semence à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en lui fruit d'arbre portant semence. Cela vous servira de nourriture. Et à toute bête sauvage, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui rampe sur la terre, et qui a en lui âme vivante, je donne toute herbe verte en nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Bon. Dieu ponctue toute son œuvre de cette manière. Je vous ai lu ce passage parce que c'est le passage où, la première fois, nous voyons le regard de Dieu sur l'homme et la femme. Et vous voyez que, selon ce récit, le regard de Dieu sur l'homme et la femme, Dieu unit l'homme et la femme. Il les unit dans un même regard. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce que les pères de l'Église ont cessé de regarder, l'homme est créé à l'image de Dieu. Et l'homme est créé à la ressemblance de Dieu. Il faudra essayer de comprendre la signification de ces deux termes. Ce qui m'intéresse ici, dans une perspective justement de d'anthropologie, c'est de voir que l'homme est créé dans sa relation vis-à-vis de Dieu. Tout de suite. Parce qu'il est créé à l'image. Dieu est le modèle. Et l'homme est créé comme tourné vers Dieu, à la ressemblance. Et c'est tout de suite le couple. Dieu est béni. Et la bénédiction de Dieu, c'est toujours la communication de la fécondité. Fructifiez et multipliez-vous. Et Dieu a le souci de donner à l'homme sa nourriture et son milieu. L'homme a besoin d'un milieu vital. Et Dieu trouve que c'est très bon. Alors qu'à l'égard de toutes les autres réalités, Dieu disait simplement le valde bonum. C'est bon. Tandis qu'ici, c'est valde bonum, c'est tout à fait bon. Nous avons le second récit, puisque les deux récits doivent toujours se voir en parallèle. Ils sont complémentaires. L'Esprit Saint a jugé bon de donner deux récits sur la création de l'homme et de la femme, c'est parce que sans doute nous avons besoin, pour comprendre le chef-d'œuvre de Dieu, d'avoir une double vision, toute différente, l'une de l'autre. Selon la première vision, l'homme et la femme aboutissent au terme de la création. Et c'est pour ça que je dis, c'est un chêne d'évolution, puisque l'homme et la femme apparaissent comme ce qu'il y a de plus parfait et de ce qu'il y a de meilleur. Donc, c'est la clé de la création. Toute la création est faite pour l'homme et la femme. Ce que les pères de l'Église ont toujours compris comme ça, du reste. Nous verrons après, si vous voulez, certains aspects que les modernes mettent en lumière, qui est intéressant à voir, du reste, mais que les modernes mettent en lumière pour supprimer cette grande vision, qui est une vision traditionnelle au point de vue chrétien, de considérer que l'homme et la femme sont le sommet de toute la création. Toute la création est pour l'homme et la femme. Je peux dire selon ce premier récit, selon un ordre de sagesse. Le second récit est tout à fait différent. On voit la précipitation de Dieu. C'est pour ça que je crois que le premier, c'est le point de vue de la sagesse. Dans la sagesse, tout est en ordre. Le second récit nous montre que Dieu crée par amour. L'amour précipite tout. Et c'est bien ce qui nous est montré dans ce second récit, c'est qu'on voit que dès qu'il y a de la terre et de l'eau, un flot monté de la terre et arrosé toute la surface du sol. Dès qu'il y a ces deux éléments, la terre et l'eau. Il y a donc possibilité de façonner cette terre. Et on voit que Dieu immédiatement façonne l'homme. Poussière tirée du sol, Yahvé Dieu façonna l'homme. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie. Et l'homme devint un être vivant. Vous avez donc les deux éléments qui nous sont montrés pour la formation de l'homme. La formation du corps, poussière tirée du sol. Et un souffle de vie. Je ne dis pas une âme, mais un souffle de vie. Et à partir de là, l'union des deux fait l'être vivant. Alors on pourrait se demander pourquoi le souffle de vie est insufflé dans ses narines. C'est une chose aussi très curieuse, parce que tout ces détails ont une valeur symbolique. Ils ont une valeur symbolique, c'est bien évident. Ce n'est pas du tout laissé au hasard. C'est d'une certaine manière une forme mythique, mais c'est un mythe divin qui donc a une valeur toute différente des mythes non révélés sur l'origine de l'homme. Et c'est, je crois, ce que nous devons faire lorsque nous croyons en l'Écriture, parce que nous savons que derrière ces traditions religieuses, il y a l'Esprit Saint qui nous donne ces deux grands textes sur l'origine de l'homme et de la femme. Donc le second récit, voyez, montre la hâte de Dieu. Et le second récit montre que Dieu crée non plus uniquement par la parole, mais aussi par le geste. Il façonna le corps de l'homme. Alors, façonner le corps de l'homme, c'est le geste du potier. C'est du reste repris plusieurs fois dans l'Écriture pour montrer que Dieu façonne le corps de l'homme comme un potier. Donc, c'est un geste tout à fait premier, artisanal et fondamental. Et à partir de l'homme, Dieu va réaliser le reste. Yahvé Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait façonné. Yahvé Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'herbes désirables. À voir et bonne à manger. Ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait des donc. Tout est fait pour l'homme. Et l'homme n'est pas heureux. Selon le second récit de la création, Dieu a mis l'homme en quarantaine pendant un certain temps pour qu'il fasse l'expérience de sa solitude. Il y a là aussi quelque chose qui est très important à comprendre. Selon le premier récit, pas du tout. Mais le second récit, qui est un récit beaucoup plus concret, qui est un récit beaucoup plus primitif, qui est un récit qui montre avant tout le point de vue de la hâte de l'amour, puisque c'est le geste de Dieu, il y a deux gestes différents. Il y a le geste de Dieu qui façonne le corps de l'homme, et le geste de Dieu qui façonne le corps de la femme. Mais avant de façonner le corps de la femme, Dieu a mis l'homme dans une certaine épreuve. Dieu a créé un petit jardin pour lui, merveilleux, avec des petits poissons rouges, on voit très bien, tout est parfait, tout est merveilleux, mais l'homme connaît une solitude. Yahvé Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit assortie. Yahvé Dieu façonna du sol toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena à l'homme pour voir comment il les appellerait. Le nom que l'homme donnerait à tout être vivant serait son nom. L'homme appela de leur nom tous les bestiaux, les oiseaux du ciel, toutes les bêtes des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fût assortie. C'est aussi très important de voir ça. Alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Il referma la chair à sa place. Donc c'est Yahvé, chirurgien. Alors ce serait très intéressant de regarder le symbolisme du potier et le symbolisme du chirurgien. Le symbolisme du chirurgien est évidemment beaucoup plus évolué que le symbolisme du potier. Ça c'est sûr. Et alors il y a ce temps entre les deux, voulu par Dieu, pour nous faire comprendre quelque chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu qui veut que la femme provienne de l'homme. Elle ne provient pas directement de la terre, alors que l'homme provient directement de la terre. Selon ce texte, encore une fois, qui est dans un langage symbolique, hein, comprenons bien. Donc, n'appliquons pas ça matériellement, ce serait une erreur énorme. C'est un langage symbolique qui veut exprimer une vérité très fondamentale. Toujours, le langage symbolique exprime certaines vérités d'ordre affectif que le langage rigoureux et logique ne peut pas exprimer. C'est propre du langage symbolique, et surtout quand ce langage symbolique se donne à travers un mythe. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu fait ça très bien pour que l'homme n'ait pas une impression de souffrance. Hein. Vous voyez, Dieu évite toute souffrance. Autrement, vous voyez, la femme serait toujours pour lui avec une réminiscence de la souffrance première. Alors, c'est Dieu ne veut pas ça. Hein. Ça, c'est très net, on le voit très très bien. Il l'a mis dans une torpeur. Dieu n'a pas demandé de conseil à l'homme. Heureusement pour la femme. Mais ça, Dieu n'a pas demandé de conseil. Il l'a mis dans une torpeur. Il l'a projeté dans une torpeur. Et à partir de là, il lui a pris une côte. Tous les pères de l'Église ont longuement discuté là-dessus. Il n'a pas pris quelque chose du cerveau, il n'a pas pris quelque chose des pieds, il a pris la côte. La côte qui est proche du cœur. Et la grande vision de saint Augustin, il ne faut pas l'oublier, le coup de l'an. Qui est vu de cette manière-là. L'Église naît du coup de l'an. Les sacrements naissent du coup de l'an. Donc une grande préfiguration. Et cette grande préfiguration, elle a été reprise à travers, elle est traditionnelle. Donc elle a valeur pour nous d'une tradition dans l'Église. Que ce mystère de la torpeur d'Adam doit être regardé par l'extase de Jésus sur la croix. C'est une torpeur extatique, donc une torpeur d'amour. Et à partir de là, Yahvé Dieu va prendre la côte de l'homme pour former la femme. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Yahvé Dieu bâtit en femme la côte qu'il avait prise de l'homme. Ça, c'est la traduction du Père Hostie, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est assez rigoureuse et assez forte et proche de l'hébreu. Yahvé Dieu bâtit en femme la côte. Extraordinaire de bâtir en femme la côte. Mais ça dit bien la chose, hein, parce que c'est le but. Il bâtit en femme la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena à l'homme. L'homme dit, celle-ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car c'est d'un homme qu'elle a été prise, celle-ci. C'est pourquoi l'homme, d'un point de vue moral, qui arrive juste après, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Vous voyez, la petite explication théologique qui vient s'ajouter au mythe. C'est très très joli ça. Ça, c'est les fantaisies du Saint-Esprit. Ça. Nous ne ferions pas ça, nous ne pourrions pas faire ça. Mais Saint-Esprit peut le faire. Et peut mettre à côté deux choses qui sont totalement différentes. Le mythe le plus étonnant qui soit, vous savez, c'est un des principes d'exégèse de Père de l'Église qui disent que chaque fois que le Saint-Esprit veut nous révéler un secret, il prend un symbolisme d'autant plus grossier. J'aime bien ce principe. Parce que chaque fois, c'est Denis qui dit ça, et ça a été repris après par les Pères de l'Église, chaque fois que le Saint-Esprit veut nous révéler un secret, il prend un symbolisme d'autant plus grossier. C'est pour ça que ce récit très primitif, grossier, c'est grossier de voir ça, n'est-ce pas, de voir que l'homme sort de la boue, que la femme sort de la côte de l'homme, bâtir la femme à partir de la côte de l'homme, c'est un très primitif comme langage. Il y a un grand secret, c'est que Dieu veut nous faire comprendre, ils sont, et c'est dit par ici, c'est l'Esprit Saint, ils deviennent une seule chair. Parce que primitivement, la femme provient de l'homme. Et vous voyez que là, il y a une réponse très intéressante à toute cette vision mythique des anciens. Où vient de l'homme. Et vous voyez que là, il y a une réponse très intéressante à toute cette vision mythique des anciens, où au point de départ, l'homme et la femme forment un seul être. Vous retrouvez ça dans le Banquet de Platon, où il montrait l'origine de l'homme et de la femme. C'est toujours intéressant de voir comment l'Esprit Saint utilise certaines traditions religieuses en les purifiant. On ne voit pas du tout trace, si vous voulez, d'androgyne, de l'homme et la femme qui sont un, puis on les coupe en deux, alors ça fait l'homme et la femme, et alors après ils peuvent se regarder, ils se retrouvent. Mais c'est l'âme sœur qui primitivement était une et qui a été séparée et qu'on se retrouve. Symbolum, hein, le langage symbolique, ça a été coupé en deux, puis ça s'est revenu après dans l'unité. Eh bien, c'est intéressant de voir ça pour mieux comprendre le regard de l'Esprit Saint, pour mieux comprendre la vision de l'Esprit Saint. La vision de l'Esprit Saint est tout autre. C'est que Dieu a créé d'abord l'homme. L'homme ne contient pas la femme, pas du tout. L'homme, il est seul. Et seul, il lui manque une compagne, une associée. Il manque celle que Dieu va lui donner gratuitement. La création est faite gratuitement et Dieu va faire ça gratuitement. Mais d'autre part, il faut que l'homme comprenne que la femme est toute proche de lui. Qu'il y a une consanguinité mystérieuse, radicale, fondamentale que Dieu a voulu. Et c'est pour ça que Dieu veut que ce soit os de mes os, chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme. Il faut qu'il y ait une connaturalité suffisamment grande pour que l'homme puisse dire en face de sa femme, os de mes os, chair de ma chair. Ça, c'est le magnificat premier de l'homme, hein, parce que c'est sa joie. Il est resté en quarantaine pendant un certain temps, triste. Et on voit l'exultation de son cœur quand Dieu lui présente la femme qui vient de lui, qui provient de lui. Et alors, il y a cette joie. Parce que, justement, elle est l'associée, elle est la compagne. Il se reconnaît en elle. Et en même temps, il voit que c'est autre, la complémentarité. Et c'est bien, je crois, cela qui nous est enseigné. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Pourquoi ? Parce que vis-à-vis de la femme, il y a une similitude beaucoup plus grande. Il y a un amour plus grand qui doit exister entre l'homme et la femme qu'entre les enfants et leurs parents. Et c'est cet amour qui va les unir de façon telle qu'ils deviennent une seule chair. Vous voyez que selon ces deux récits, le récit selon la sagesse de Dieu, où les deux sont créés simultanément, le récit selon l'exigence de l'amour, où les deux sont créés séparément. Pourquoi ? Parce que l'amour se sert du geste, et le geste est toujours individuel et personnel. Je ne peux pas avoir un geste universel, je ne peux pas avoir une parole universelle. Alors le geste est propre à Adam, et le geste est propre à la femme. Il y a deux gestes différents. Alors c'est ça qu'il faudrait essayer de comprendre au point de vue symbolique, comment le symbolisme du potier exprime l'amour particulier de Dieu pour l'homme, et le symbolisme du chirurgien exprime l'amour particulier de Dieu pour la femme. On essaiera de comprendre, hein. Il faut au moins se poser la question. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a ces deux gestes. Et ces deux gestes expriment quelque chose de très particulier. Enfin, il montre bien. Il y a un lien entre l'homme et la femme. Alors, or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme. Et ils n'avaient pas honte. Le Saint-Père a repris ça, vous le savez bien, dans son langage particulier, son enseignement, et il a beaucoup insisté là-dessus. Pour montrer la nudité au point de départ, ils sont innocents, ils sont sans péché. il s'aime. Que c'est à cause du péché que la nudité ne pourra plus être ce qu'elle était primitive. Parce que l'amour donne un regard simple et direct. Quand on aime quelqu'un, quand on l'aime vraiment, alors il y a un regard qui fait que l'autre peut être dans la nudité. Tandis qu'au contraire, quand il y a la faute, il y a l'orgueil. Il y a le désir de domination. Il n'y a plus l'amour. Et alors à ce moment-là, la nudité devient source de tentation parce qu'elle empêche d'avoir le respect suffisant. Et je crois que là, c'est très beau. C'est toute une philosophie que le Saint-Père a développée longuement. C'est intéressé de voir le pourquoi il est dit tous les deux étaient nus. On le sait bien, ils étaient nus. C'est évident, ils ne sont pas sortis de Dieu, et Dieu ne les a pas façonnés en donnant une jaquette et un chapeau et des gants. Pas du tout, ils étaient nus. Et Dieu a voulu qu'ils soient comme ça. Et la nudité en face de Dieu, c'est l'amour. L'amour va vers la simplicité, vous voyez. Et l'amour réclame ça, la simplicité. Et c'est parce qu'il y a ce regard d'amour de l'un sur l'autre, qu'il peut y avoir et qu'il n'y a pas d'honte, pas de honte. La honte provenant justement du péché. Et faisant que la nudité, alors à ce moment-là, n'est plus ce qu'elle était primitivement. Je crois que c'est cela que l'homme a perdu le plus. Parce qu'il a perdu ce regard d'innocence dans l'amour. Alors la grande question qui se pose, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Les pères de l'Église se sont posé la question, toujours, comment comprendre les dimensions de l'image de Dieu. Et là, nous entrons vraiment dans une vision d'anthropologie. Les pères de l'Église, je prends ici saint Augustin, a dit que l'image de Dieu, c'était, par le point de vue de la mémoire, de l'intelligence et de l'amour. Pourquoi dit-il ça ? Si vous regardez attentivement, vous voyez qu'il y a plusieurs dimensions de l'homme qui nous sont montrées. Selon le premier récit, je vous ai montré la fécondité. Je vous ai montré l'aspect de la domination. L'homme doit dominer l'univers. Ça me semble très net. Selon le second récit, l'homme nomme les animaux. Tous les animaux, il les nomme. Donc c'est la connaissance. Nommer l'animal, c'est le connaître. Quand vous nommez quelqu'un, vous le connaissez. Et puis, il y a l'amour. Os de mes os, chair de ma chair. Il y a un amour profond. Donc vous avez toutes ces dimensions qui donnent le point de vue de l'anthropologie première, selon les deux premiers récits. Quelque chose de très très simple, mais en même temps de profond. Je reprends, je dis en premier lieu la fécondité, ça fait partie d'une anthropologie, et l'homme est créé tout de suite, l'homme et la femme, pour être source de vie, pour qu'ils puissent être source de fécondité. On leur donne la domination, le dominium, ils ont la possibilité de la connaissance, ils ont la capacité d'aimer. Je crois que ce sont toutes les notes qui nous sont données dans cette première anthropologie. Il y a donc divers points, diverses dimensions par où l'homme est créé à l'image de Dieu. Est-ce que nous pouvons aller un peu plus loin et préciser l'ordre qui existe dans ces diverses dimensions? Parce que s'il y a divers éléments, il y a un ordre. Toujours. Autrement, c'est l'anarchie. Chacun va dans son sens. Alors, pouvons-nous préciser l'ordre de ces différents éléments? Bien, je crois qu'on peut préciser l'ordre de ces différents éléments par ce qu'il suit, c'est-à-dire du chapitre 3 au chapitre 11, où nous voyons les grandes tentations et les grandes fautes. ainsi fait partir, encore une fois, de ce premier moment de la révélation où l'Esprit Saint se sert de tradition religieuse. Alors, regardons la tentation. Je dis ça, c'est parce que le démon, qui apparaît ici sous la forme du serpent, le démon ne peut rien créer, mais il peut enlever l'ordre de la sagesse de Dieu. Et je crois que c'est même le rôle propre du démon, c'est d'enlever l'ordre de la sagesse, de mettre l'anarchie. Et de ce point de vue-là, les tentations que l'homme va subir ou que la femme va subir vont nous éclairer sur l'ordre voulu par Dieu. Comment Dieu veut-il que l'homme soit à l'image et à la ressemblance de Dieu? Or, pour saisir ce qu'est la ressemblance, il faut saisir l'ordre des différents éléments. Pour que nous comprenions mieux la finalité voulue par Dieu. Alors, je regarde avec vous les diverses tentations et les divers péchés, les diverses fautes qui nous sont montrées. La première faute, c'est la faute de la femme. Elle est tentée par le serpent. Là, il y a une petite analyse qui serait très intéressante à faire. Parce que nous sommes en présence de la première tentation. Et ça fait partie, ne l'oublions pas, d'une anthropologie. L'homme est tout de suite vu comme un être qui est capable d'être tenté. L'homme et la femme sont immédiatement vus comme capables d'être séduits. La femme a été séduite. Alors il faut regarder cette tentation et la manière dont elle est séduite pour saisir quelle est la vulnérabilité qui existe dans l'homme. Si on est capable d'être séduit, c'est à cause d'une vulnérabilité. Comment le serpent va saisir cette vulnérabilité pour pouvoir communiquer son venin à la femme. Nous voyons que c'est lui qui prend l'initiative. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Il nous est dit précédemment qu'il apparaît sous la forme du serpent, qui est le plus rusé de toutes les bêtes des champs. Donc c'est la ruse qu'on voit. Il interroge. Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Toute l'astuce du démon, c'est d'arracher le secret qui unit l'homme et la femme avec Dieu. Le démon ne peut regarder les choses que de l'extérieur. Et de l'extérieur, il voit que l'homme et la femme ne mangent pas d'un certain arbre. Et la manière dont il séduit la femme, c'est d'abord de l'interroger. Peut-être qu'Adam n'interrogeait pas assez sa femme. Je mets ça à titre d'hypothèse, puisque je ne comprends pas comment la femme a été si vite séduite par quelqu'un qui l'interroge, si Adam l'interrogeait plus. Tandis que là, on est très flatté. Quand on est interrogé par quelqu'un, on demande à cette personne de nous donner la lumière, de nous éclairer. Et le démon, là, le serpent, interroge la femme pour l'attirer. Et c'est vrai. Quand on interroge quelqu'un, On attire son regard sur nous. Et on lui fait comprendre qu'on a un désir de recevoir de lui la lumière. Une phrase, une affirmation exagérée. Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Il sait très bien, il les a vus manger des arbres du jardin. Mais il est inquiet, il veut connaître la vérité. Le démon est un arracheur de secrets, hein. Faut jamais l'oublier. Comme certains journalistes, hein. C'est-à-dire arracheur de secrets. Il veut à tout prix saisir des secrets. Ou les psychanalystes, n'est-ce pas, aussi. Il y a beaucoup, il faut mettre toute la catégorie des arracheurs de secrets. Mais le démon est un arracheur de secrets, ça, c'est très net. Il veut savoir alors qu'il ignore. Il y a un secret dans cette petite communauté qui lui échappe complètement. Il y a un secret. Nous reviendrons là sur le serpent, parce que c'est important. Alors, il prend quelque chose exprès d'exagéré. Parce que quand on prend quelque chose d'exagéré, ça fait réagir. Hein. Alors, là, il fait comprendre que pour lui, c'est pas drôle du tout la situation d'Adam et Ève. Une situation de mineur, puisque Dieu leur interdit de manger. Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Alors la petite fierté de la femme, hein, ils pourront manger du fruit des arbres du jardin. Oui, elle réagit immédiatement. Mais elle est dans la vérité. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Là, elle livre le secret. Il y avait un précepte négatif. Et Dieu avait donné ce précepte négatif pour exercer l'obéissance. Ce sont les préceptes négatifs, vous savez bien, qui font exercer le mieux l'obéissance. Donc elle livre le secret. Et immédiatement le serpent s'en sert pour donner la première herméneutique de la parole de Dieu. Le premier qui a donné une herméneutique de la parole de Dieu, c'est le démon. À l'oublier. Une herméneutique qui est dans son sens. Donc une interprétation. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Et ce dialogue est très curieux parce que ce dialogue est fait de... On se rejette la balle mutuellement. Hein. Le démon affirme, vous ne mangez d'aucun arbre du fruit. Pas du tout, nous pouvons manger du arbre du fruit. Vous mourrez pas du tout, vous mourrez pas du tout. C'est très curieux, c'est une espèce de dialogue entre les deux, mais un dialogue qui est sous une forme dialectique du reste. Hein. Pas du tout, vous ne mangerez pas, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous voyez l'herméneutique, l'interprétation, vos yeux se décideront et vous verrez comme, et vous verrez comme des dieux. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc il est flatte. Il a commencé par flatter la femme, et il donne une fausse espérance. Vous serez comme des dieux. C'est très curieux, hein, parce que Adam et Ève sont créés eux aussi comme des dieux. Mais comme des dieux, c'est-à-dire en vue du bonheur de Dieu, par le point de vue de l'obéissance, par le point de vue de l'amour. Et le démon modifie le plan de Dieu, il le change complètement. Ils seront comme des dieux par la connaissance du bien et du mal. La béatitude est une béatitude de connaissance. Alors que la béatitude voulue par Dieu pour Adam et Ève était une béatitude dans l'amour, qui se traduisait dans l'obéissance. Il y a donc un renversement par rapport à l'image de Dieu. Et je crois que la tentation à ce point de vue-là est extrêmement intéressante pour nous. Nous voyons la suite, hein, la suite elle est facile à comprendre. La femme vit que l'arbre était beau à manger, qu'il était agréable aux yeux. Et qu'il était cet arbre pour acquérir l'intelligence. tirer un des livres. La séduction porte là-dessus. On veut la libération par rapport à l'obéissance, par le point de vue de l'intelligence. Elle prit son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea. Alors se dessillèrent leurs yeux à tous deux et ils connurent qu'ils étaient nus. La première connaissance après le péché, après la désobéissance. Et cousant des feuilles de figuier, ils s'en firent des pâtes. Il s'agit d'expliquer pourquoi l'homme prend un habit. Hein. Vous comprenez bien, il y a ça. Il faut pas l'oublier, il y a tout ça. Il y a l'aspect moralisant qui vient après. Comme toujours, il y a le mythe, et puis il y a l'aspect moral qui suit immédiatement, exactement comme tout à l'heure. Il faut bien séparer les deux. Hein. Il faut bien distinguer les deux. Le mythe, c'est la tentation. C'est le serpent. C'est le serpent qui tente. C'est le serpent qui attire à lui. C'est le serpent qui veut détourner Adam et Ève de leur vraie finalité. Et la vraie finalité d'Adam et Ève étant justement l'obéissance et l'amour. Et le démon détourne. Et veut les orienter vers l'exaltation de l'intelligence. C'est pour ça que tous les pères de l'Église ont dit que la première tentation, c'est une tentation d'orgueil. Ce n'est pas du tout une tentation au point de vue de la nudité, c'est pas ça du tout. C'est pas du tout une tentation au point de vue sexuel. Non, 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 non. C'est là on voit que Freud n'a pas compris. C'est intéressant parce que là on a une vision divine. Hein. Quelle est la grande fragilité de l'homme? C'est pas premièrement la concupiscence de la chair. La grande fragilité de l'homme, c'est l'exaltation de sa connaissance. Nous voyons. C'est ça que le démon a saisi. Et c'est cela qu'il a secoué en montrant justement une interprétation, une herméneutique toute nouvelle de la parole de Dieu. Et Ève s'est laissée prendre. Elle s'est laissée séduire. Et la conséquence du péché, ah, c'est la nudité. Oui, c'est une conséquence, c'est pas premier. Et c'est dit. Donc, c'est immédiatement après l'orgueil, il y aura la concupiscence. De la chair et du sang, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Ça n'était pas aperçu avant. Ça vaut qu'ils se voyaient dans un regard tout à fait d'amour, et qu'ils se voyaient comme de l'intérieur. Et subitement, à cause de l'orgueil, il y a eu comme une cécité de la vision intérieure. Et c'est la vision extérieure qui va l'emporter. C'est très curieux, ça. Mais c'est très intéressant pour essayer de comprendre justement comment la première tentation fait passer devant l'intelligence. Alors que selon la volonté de Dieu, l'intelligence n'est pas ultime. Ce qui est ultime, c'est l'amour. C'est l'amour qui est ce qu'il y a de dernier. Et l'intelligence, c'est vrai. Elle est source d'autonomie pour nous, mais l'intelligence est ordonnée à l'amour. Nous continuerons la fois prochaine pour essayer de bien saisir, selon la Genèse, quelle est l'anthropologie qui nous est montrée. C'est merveilleux, du reste, parce que c'est Dieu lui-même, l'Esprit Saint lui-même, qui nous apprend à regarder les dimensions profondes de l'homme et de la femme. Dominium, intelligence, je crois que c'est l'ordre que nous découvrirons progressivement. Tout le dominium que Dieu a donné à l'homme et à la femme est ordonné à l'intelligence, et l'intelligence est ordonnée à l'amour. Et la tentation, c'est d'enlever l'ordre voulu par la sagesse de Dieu, c'est de faire passer avant l'amour l'intelligence, et de faire passer avant l'intelligence et l'amour de Dominion. Et ce sera la grande tentation exprimée par la tour de Babel.